La musique vous est-elle agréable?
Deuxième tiroir à droite.
Bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, on va faire un grand saut dans le temps pour revenir au début du siècle dernier. Imaginez-vous au temps de Gatsby le Magnifique, au temps où la musique crépitait dans les pavillons des gramophones. Imaginez-vous au temps où aux États-Unis, la ségrégation raciale orchestrait le pays et où il n'était même pas envisagé d'oser la remettre en question. Imaginez-vous une chanteuse de blues noire, mais attention, pas n'importe laquelle, celle qui sera surnommée sobrement l'impératrice du blues, la première chanteuse noire qui trouvera du succès auprès des blancs, celle qui fera la transition entre le blues des puristes, rural et authentique, et le swing vocal des chanteuses des années 30. Alors vous visualisez? Oui, cette semaine, on replonge dans la vie de l'incroyable Bessie Smith. Née Elizabeth Smith, Bessie naquit le 15 avril 1894 ou 1895, peut-être on ne sait pas exactement. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'elle vit le jour dans une famille afro-américaine très pauvre de Chattanooga, dans le Tennessee, seulement 30 ans après l'abolition de l'esclavage. L'indigence, elle en sortira, mais elle y replongera à la fin de sa courte vie. Et comme si cela ne suffisait pas, Bessie Smith perdit ses parents alors qu'elle n'avait pas encore 10 ans. Sa fratrie fut alors élevée par les aînés, la sœur Viola et le frère Clarence. Et très vite, ce frère va embarquer Bessie dans les rues de Chattanooga pour chanter ensemble. Toute jeune, mais déjà de l'aplomb, elle se produit peu de temps après sur la scène de l'Ivory Theatre. Et en 1912, à peine âgée de 18 ans, son frère Clarence, qui avait déjà mis un pied dans les troupes de spectacles itinérants, la présente à une compagnie qui organise et produit des minstrel shows, ces spectacles sous chapiteau qui mêlent les chants, danses et intermèdes comiques, et qui initialement étaient interprétés par des blancs qui se grimaient en noir. Mais après la guerre de sécession, ces shows seront joués par des noirs eux-mêmes. Grâce à ce premier contact, Bessie Smith est engagée comme danseuse et choriste. Et d'ailleurs, à cette époque, elle marquera davantage le public par ses talents de danseuse et sa capacité à occuper la scène que par ses dons de chanteuse. Elle se produit ainsi dans la troupe de la Rabbit's Foot Company, un spectacle ambulant créé par William et Gertrude Rainey. La fameuse Ma Rainey est à ce moment-là l'une des seules femmes à chanter l'authentique blues sudiste, le blues des campagnes, un peu crado, mais tellement profond, jusque-là plutôt réservé aux hommes. Ma Rainey est un véritable modèle pour Bessie Smith. Alors, elle ne lui délivre pas vraiment de cours de chant, mais aura une influence considérable sur cet artiste au nom gravé dans l'histoire de la musique populaire américaine. Bessie Smith tournera dans la troupe de Ma Rainey pendant 3 ans, jusqu'à son départ en 1915. Il est malheureusement temps de se quitter. Je vous laisse avec Downhearted Blues, le tout premier enregistrement de Bessie Smith qui date de 1923 et dont je vous parlerai demain sur Divergence évidemment. Écoutez-moi ce petit crépitement d'antan.
Yeah.
La musique vous est-elle agréable ?
Salut à vous ! Replongeons-nous sans attendre dans l'Amérique des années 20 où une jeune femme, danseuse et blueswoman, mène une vie de bohème. En 1912, Bessie Smith part sur les routes se produire dans une troupe de minstrel shows. Elle la quitte 3 ans plus tard, en 1915, et quelques temps après, elle décide de laisser son Tennessee natal pour se rendre à Atlanta. Elle se fait alors embaucher par le Haiti One Theater, où elle y chante régulièrement. À l'époque, dit-on, Bessie Smith ne sait pas se mettre en valeur. Elle chante sur scène avec ses vêtements de ville, mais cela ne l'empêche pourtant pas de devenir la véritable coqueluche du public. Elle n'a pas encore 20 ans et ne gagne que 10$ par semaine, mais les spectateurs, appréciant ses chansons, lui jettent des pièces après chaque morceau, surtout après Weary Blues, son succès du moment. Bessie Smith tourne également pas mal avec la Toba, un syndicat qui possédait alors de nombreuses salles de spectacle dans les quartiers noirs des grandes villes des États-Unis. L'artiste commence à se faire un nom dans la communauté afro-américaine et voit enfin l'occasion de passer du sud au nord. Ainsi, après avoir passé plusieurs années à Atlanta, Bessie Smith décide de poser ses valises à Philadelphie. En 1921, la chanteuse a son propre orchestre avec lequel elle tourne dans les villes du Nord. Sa voix, ses interprétations, sa personnalité, son élégance, son franc-parler font de ses concerts de véritables événements locaux. Bessie Smith se fait alors contacter par plusieurs sociétés d'enregistrement, mais elle doit essuyer de nombreux échecs. Les membres de la société OK Records, par exemple, refuseront finalement de l'enregistrer à cause de sa voix jugée trop rude. Et puis Thomas Edison en personne, celui-là même qui inventa le phonographe et qui tenait à entendre les essais de tous les musiciens susceptibles d'enregistrer dans sa maison, refusa Bessie Smith, inscrivant sur son registre à commentaire la mention NG pour No Good en face du nom de la chanteuse. Après ses échecs et quelques trahisons, c'est finalement le pianiste Clarence Williams qui vient la chercher à Philadelphie. Il l'embarque alors à New York pour la présenter à rien de moins que la Columbia Records. Et c'est ainsi qu'en 1923, Bessie Smith fait son tout premier enregistrement. Celui du morceau Downhearted Blues, que je vous ai d'ailleurs passé hier, en duo avec Clarence Williams. Le succès est fulgurant, 800 000 exemplaires du disque sont vendus rien que sur les 6 premiers mois. Il est dit qu'au total, les ventes auraient atteint les 2 millions d'exemplaires. La chanteuse conclut alors un contrat d'exclusivité avec la Columbia qui lui fera enregistrer sur la totalité de sa carrière plus de 120 chansons. Elle en enregistrera près de 200 en tout. Et cette même année, 1923, Bessie Smith enregistre également 3 autres duos, notamment avec le pianiste Fletcher Henderson. Malheureusement, bien que la Columbia soit déjà à cette époque une entreprise d'envergure internationale, Bessie Smith n'en profitera pas vraiment, puisque ce n'est qu'à la fin des années 30 et puis après la guerre de 40 que seulement une pincée de ses créations seront diffusées en France et en Angleterre. Mais qu'importe, aux États-Unis, elle devient une véritable star, peut-être même la première star noire américaine. Elle est en tout cas l'une des artistes les mieux payées du moment, empochant 2 000 $ par semaine. Imaginez-vous ce que cela pouvait représenter dans les années 20. C'est donc ainsi en 1923 que démarre l'âge d'or de Bessie Smith. Je vous propose d'écouter de suite Soft Pedal Blues. À demain, même heure, sur Divergence évidemment. Oh.
La musique vous est-elle agréable?
À toutes et à tous, Bessie Smith explose donc en 1923 avec le titre Downhearted Blues, accompagné au piano de Clarence Williams. À l'époque, la technologie ne permet guère d'isoler la voix des instruments. Il est donc nécessaire pour que l'on puisse entendre le chanteur sur les enregistrements que ceci se fasse avec de toutes petites formations acoustiques. Pas plus de 2-3 musiciens accompagnent donc Bessie Smith lors de la gravure de ses disques. Entre parenthèses, Bessie Smith n'enregistrera qu'à New York, là où à l'époque les équipements des studios étaient les plus perfectionnés. Elle va donc faire de nombreux enregistrements avec seulement un pianiste ou un trompettiste. Et c'est comme ça qu'au début de l'année 1925, elle fait une session de gravure de sillon avec un jeune trompettiste débutant de 23 ans, un certain Louis Armstrong. Ils enregistrent ensemble 4 morceaux, dont Saint Louis Blues et le poignant Reckless Blues. Louis Armstrong racontera amusé que pour cette session, il avait touché pour la première fois de sa vie un billet de $100. Ayant besoin de monnaie, Bessie accepta de la lui faire. Elle souleva alors sa robe pour récupérer les petites coupures cachées dans ses sous-vêtements qui en étaient bourrés. Si l'expérience a plutôt marqué Armstrong, Bessie semble quant à elle avoir été davantage impressionnée par un autre trompettiste, Joe Smith. Réputé pour son jeu extrêmement doux, il était à l'époque très demandé par beaucoup de chanteuses. Bessie Smith enregistrera avec lui notamment At the Christmas Ball ou encore Weeping Willow Blues. Elle enregistrera également avec le trompettiste Tony Lanier et le tromboniste Big Charlie Green, notamment le morceau Trombone Cholly. Et puis quelques mois plus tard, en mai 1925, Bessie Smith fait une nouvelle session d'enregistrement, mais cette fois-ci avec au moins 5 ou 6 musiciens. Et oui, Bessie Smith expérimente alors les tout premiers procédés d'enregistrement électrique avec microphone qui permettent la captation de davantage d'instruments. Et ces équipements électriques, comme vous le savez, viendront progressivement remplacer les procédés d'enregistrement mécanique, des phonographes et des gramophones. Et mine de rien, eh bien, on entend la différence. Bessie Smith racontera pour cette première expérience électrique, elle, ses 7 musiciens, tous de la bande à Fletcher Anderson, ainsi que les techniciens, furent installés dans un espace très confiné où fut dressée une espèce de tente. Ils s'attelèrent tous à jouer The Yellow Dog Blues, mais claustrophobe, Bessie Smith s'agita un peu fort et la tente s'effondra pendant la prise. Heureusement, les sessions d'après se passèrent plus sereinement. Et s'agissant de cette chanson The Yellow Dog Blues, eh bien il est un parfait exemple de chanson blues utilisant l'argot à multiples sens des Noirs américains dans ce morceau, écrit par William Christopher Handy. Il est conté l'histoire de Susie Johnson et de son copain Lee. À la fin, Bessie Smith chante « Here's gone where the Southern cross the Yellow Dog », il est parti où le Sud croise le chien jaune. C'est en réalité une façon très imaginative de désigner un grand champ à la sortie de Morehead, une ville du Mississippi où se croisaient justement les rails de la Southern Railway et ceux de la Yazoo Delta Line, YD comme Yellow Dog. Allez, aujourd'hui on se quitte avec Cakewalking Babies, une chanson écrite et composée par Clarence Williams et considérée par les connaisseurs comme un véritable chef-d'œuvre dans lequel Bessie Smith y aborde les mots d'une façon unique et personnelle et pleine de swing. À demain sur Divergence. Excellente journée à vous. Demonstrating, paying a class of their own.
to see them. You meet them, but you'll never be them. Reduce them. Then they'll keep walking, baby, from home.
C'était la première femme à chanter et enregistrer des chansons de blues. Mamie Smith, par exemple, qui n'a au demeurant aucun lien de parenté avec Bessie, s'y frotta 3 ans avant elle, dès 1920. Plusieurs chanteuses suivirent après elle, Ma Rainey, celle qui forma Bessie et dont je vous ai parlé, puis Ida Cox, Ethel Waters, Eva Taylor, l'épouse de Clarence Williams, et quelques-unes encore, oui. Mais dès son premier disque en 1923, Bessie Smith supplanta toutes ses artistes. D'abord parce que c'est l'une des rares originaires de l'Amérique sudiste, celle de l'esclavage où les Noirs continuent à ce moment-là à vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Ensuite et surtout parce que Bessie Smith offre des interprétations très personnelles. Elle sort du blues pur aux accentuations marquées pour offrir, malgré sa voix puissante, davantage de douceur, allongeant les voyelles et allégeant les consonnes. Elle n'hésite pas à s'éloigner de la ligne mélodique pour improviser et elle deviendra le trait d'union entre le blues folklorique de la vieille Amérique et les chanteuses de jazz des années 30 éminemment représentées par Billie Holiday ou Ella Fitzgerald. Mais au-delà de sa musique, Bessie Smith va également marquer l'histoire populaire par sa personnalité. Profondément libre, extrêmement audacieuse et plutôt bagarreuse, la chanteuse en impose, comme on dit. Voluptueuse, port de reine, fossette aux joues, Bessie Smith vit sa vie sans entrave. Elle ne cache pas sa bisexualité, dans les années 20, il fallait tout de même avoir le cran. Elle est une noctambule notoire, boit du gin et se drogue, mais elle va à l'office tous les dimanches. Être libre n'empêche pas d'être spirituelle. Bon, en 1926, après avoir surpris son compagnon de l'époque dans les bras de l'une de ses choristes, Bessie Smith n'hésite tout de même pas à frapper la maîtresse, puis à poursuivre l'homme sur la voie ferrée en lui tirant dessus avec un revolver. Elle n'hésite pas non plus, en pleine prohibition, à chanter dans le titre « Me and my gin », Any bootlegger is a pal of mine, n'importe quel fabricant d'alcool clandestin est mon ami. Bessie Smith, dans ses chansons, parle assez crûment de la prohibition, bien sûr, mais également de la misère, des blessures amoureuses, de la discrimination. Elle chante la vie quotidienne de façon profondément touchante, parfois même déchirante, mais sans jamais tomber ni dans le politique ni dans le plaintif. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle réussit à trouver écho auprès du public blanc. De son premier succès en 1923 à la crise de 1929, Bessie Smith enregistre énormément de chansons. Parmi elles, on retrouve notamment « Careless Love », composée par William Christopher Handy, ou encore Young Woman Blues et Baby Doll, écrites et composées par Bessie Smith elle-même. Mais la chanteuse finit par avoir envie de davantage de liberté dans sa musique, de sortir un peu du carcan strict de la musique blues à la structure si spécifique. Et bien qu'elle reste à tout jamais l'impératrice du blues, elle réussira tout de même à s'en écarter légèrement, notamment grâce aux chansons Alexander's Ragtime et Muddy Water, qu'elle enregistrera en 1927 et qui feront regretter aux puristes son titre honorifique. Mais cela n'entamera pas la popularité de l'artiste qui, bien que plongeant progressivement dans l'alcoolisme, restera une véritable vedette jusqu'en 1929. Cette année-là, elle tournera une sorte de clip de la chanson Saint Louis Blues qu'elle avait initialement enregistrée avec Armstrong, mais qui dans le film se trouve jouée par Joe Smith. Dans ce court-métrage, la seule captation de vidéo de Bessie Smith d'ailleurs, celle-ci se moque d'elle-même et de son penchant pour l'alcool. Ce film marquera l'apogée de sa carrière et avec le krach boursier, le début de son déclin. Suite et fin, demain, même heure, même fréquence. En attendant, voici Alexander's Ragtime. Très jolie journée à vous.
Oh my honey, you better hurry and let's go down there. Ain't you going to that little man, raggy meter man? Oh honey, let me take you to Alexander, Ransom, Brass Band. Ain't you coming along? Come on in here, come on in here, Alexander, Ragtime Band. Come on in here, come on in here, it's the best band in the land. They can play the bugle call. Sounds so natural that you wanna go to war. That's just the best band in the land. Oh, honey lamb, come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, who is the leader of the band. And if you hear the yell, the Suwannee River played in ragtime. Come on in here, come on in here.
Salut à toutes et à tous, revenons à l'année 1929. Le krach boursier plonge les États-Unis dans la désolation profonde et Bessie Smith n'en réchappera pas. Abîmée par l'alcool, en plein divorce, oui, elle s'était mariée l'année de son explosion musicale, Bessie Smith s'enfonce dans une période sombre dont elle ne sortira jamais vraiment. Si elle continue d'enregistrer, le rythme des sessions et la vente de ses disques ralentit nettement. La crise économique a bien sûr touché le porte-monnaie des auditeurs, mais le fait est aussi, diront les producteurs, qu'en cette période noire, les gens ont envie d'écouter de la musique moins déprimante et plus légère que le blues. En 1931, Bessie Smith enregistre notamment « Safety Man » et « Need a Little Sugar in My Bowl », un titre aux paroles un poil graveleuse que Nina Simone reprendra d'ailleurs dans les années 60. Pour cette session, l'artiste touche 125 $ et les disques ne sont cette fois-ci fabriqués qu'au fur et à mesure des commandes. Au final, il ne s'en écoulera que 800 exemplaires. Un second disque, qui ne sera diffusé que l'année d'après, n'atteindra quant à lui pas même les 400 exemplaires. Puis plus rien pendant 2 ans, Bessie Smith ne remet les pieds dans un studio d'enregistrement qu'en novembre 1933. Et c'est John Hammond, un riche héritier d'une vingtaine d'années, fin connaisseur et découvreur entre autres du clarinettiste Benny Goodman, par ailleurs son beau-frère, qui insiste pour remettre Bessie Smith en selle. Elle souhaite toutefois pour cette session s'attaquer à des morceaux plus modernes, plus vaudeville, plus jazz, et se fait accompagner, une fois n'est pas coutume, par des musiciens blancs, dont Benny Goodman. Ils gravent ensemble « Gimme a Pigfoot ». Bien que les ventes ne soient pas mauvaises, Bessie Smith ne réussira pas à s'imposer dans ce nouveau style, et cette séance du 24 novembre 1933 sera la toute dernière de l'impératrice. Et tandis que l'univers musical voit progressivement s'éteindre une étoile, il en voit naître une autre, 3 jours seulement après l'ultime session de Bessie Smith. John Hammond fait en effet venir, dans le même studio, une toute jeune chanteuse des 18 ans, admiratrice de Bessie, qui se fait prénommer Billie. Billie Holiday vient faire là son tout premier enregistrement. Bessie Smith s'en retourne alors là où sa vie avait démarré, dans la misère. Pour survivre, elle fait notamment du trafic d'alcool et elle se produit dans des spectacles peu reluisants, qui tournent alors dans les principales villes du sud des États-Unis. Et puis un soir de 1937, alors qu'elle vient de quitter Memphis avec son compagnon, Richard Morgan, et se rapproche de la ville où elle doit se produire le lendemain, celui-ci, au volant mais fatigué, s'encastre dans un camion. Ne voyant pas les secours arriver, un pêcheur matinal présent sur les lieux embarque Bessie Smith, grièvement blessée, dans sa voiture afin de l'amener à l'hôpital, mais le destin est coriace, le véhicule a lui aussi un accident. Deux jeunes fêtards viennent enfoncer le derrière de la voiture. Les secours finissent tout de même par arriver et Bessie Smith est transportée à l'hôpital. On lui ampute un bras, mais elle décède le lendemain matin. Et pendant longtemps, circulera la rumeur selon laquelle la chanteuse serait décédée car elle aurait été amenée dans un hôpital de blancs qui aurait refusé de la prendre en charge. Elle serait ainsi arrivée à l'hôpital afro-américain trop tard pour être sauvée. Cette rumeur a notamment été nourrie par la pièce de théâtre de Edward Albee, La mort de Bessie Smith, qui soutient cette thèse alors que pourtant, plusieurs personnes ont pu témoigner de ce que la chanteuse avait été dirigée directement vers l'hôpital des Noirs américains, personne à cette époque n'ayant pu ne serait-ce que songer à l'amener dans un hôpital de blancs. Bien que sa musique ne rassemblait plus trop les foules, 10 000 personnes se déplacèrent pourtant à Philadelphie, où elle avait été rapatriée pour lui rendre un dernier hommage. Ironie du sort, l'avant-dernier morceau enregistré par Bessie Smith en 1933 s'intitule « Take me for a buggy ride »,« Emmène-moi faire un tour de voiture ». Son départ de cette planète fut somme toute à l'image de sa vie, fracassante. En tout cas, il est certain que Bessie Smith aura inspiré bon nombre d'artistes féminines, de Ella Fitzgerald à Nora Jones, en passant par Nina Simone, Willie Mae Thornton, qui d'ailleurs sera surnommée la nouvelle Bessie Smith, et Janis Joplin. Celle-ci fit d'ailleurs graver sur la tombe de son idole, longtemps restée anonyme, la phrase « La plus grande chanteuse de blues au monde ne cessera jamais de chanter ». Bessie Smith sera honorée au National Women's Hall of Fame et récompensée à titre posthume de 3 Grammy Hall of Fame Awards. La plupart de ses chansons sera par ailleurs utilisée dans la bande-son du jeu vidéo BioShock et un film lui sera également consacré en 2015 avec Queen Latifah dans le rôle-titre. Je vous laisse déguster un dernier morceau de l'impératrice du blues. Voici Baby Doll, un morceau qu'elle a écrit et composé elle-même. À lundi sur Divergence.
Honey, there's a funny feeling
don't mind.